Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Les débats de panorama sur Europe 1 jusqu'à 19h. 3300 personnes recensées officiellement dans ce qu'on appelle la mouvance d'ultra-droite. Gérald Darmanin a cette semaine dissous Division Martel. Mais qu'est-ce que l'ultra-droite? Qui sont-ils? Quel danger pour la société? Pourquoi se constituent-ils? Quel message veulent-ils faire passer? Et puis surtout, est-ce que c'est bien ce qu'on croit ou ce qu'on pense croire? Pour en débattre, Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Directeur de l'opinion à l'Institut IFOP, auteur de La Fracture aux éditions des Arènes. Bonsoir Mathieu Boccoté.
Bonsoir.
Sociologue, essayiste, auteur de Le totalitarisme sans le goulag aux presses de la cité cette année. Bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
D'où est-ce que ça vient le terme d'ultra-droite?
Alors il faut remonter à 1994. Selon l'historien Nicolas Lebourg, qui est spécialiste de l'extrême droite, la formule apparaîtrait au cours de la réforme des renseignements généraux. La réforme qui, je cite, imposait l'interdiction d'enquêter sur les partis politiques tout en poursuivant sa mission de surveillance des potentiels activistes et terroristes. Dès lors, dit-il, le syntagme ultra-droite, évoquant les ultras de la guerre d'Algérie, lui permettait de séparer son champ d'observation de celui de l'extrême droite légaliste et électoraliste, fermez les guillemets. Depuis plusieurs années, de manière générale, le terme désignerait les militants d'extrême droite violents, une définition à relativiser toutefois selon Nicolas Lebourg, qui lui décrirait davantage un vaste fourre-tout qui incorpore des groupes violents et d'autres qui ne le sont pas, ainsi que des catégories idéologiques très différentes, identitaires, néofascistes, néo-nazis, catholiques, intégristes non-violents mais théocrates comme Civitas, mais aussi des royalistes de l'Action française, des identitaires ou encore des ultranationalistes.
Et combien sont-ils aujourd'hui?
Alors d'après un rapport parlementaire rendu public le 15 novembre dernier, on recenserait environ 3300 personnes et 1300 d'entre elles seraient fichées S. Ces personnes se regrouperaient au sein de groupuscules allant de quelques personnes à plusieurs dizaines à travers la France. Depuis 2017, 14 dissolutions des groupuscules d'extrême droite ont été ordonnées par le gouvernement, dont la division Martel dissoute ce mercredi en Conseil des ministres.
Exactement, et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a justifié cette dissolution expliquant que le groupe promeut la haine raciale, notamment à l'encontre des immigrés et des populations vues comme musulmanes. Mathieu Boccoté, Gérald Darmanin, en fait, il fait deux choses, il coupe tout ce qui dépasse, ultra-droite, ultra-gauche. Et est-ce que d'une certaine manière, il ne coupe pas, et là je pense plus à l'ultra-droite, tout ce qui pourrait lui faire concurrence?
Je dirais surtout que le concept d'ultra-droite en ce moment est un concept à la définition terriblement arbitraire qui sert à mater, et là je serai précis, à casser la mouvance identitaire qu'on a vue avec Génération Identitaire et tout ça, mais en la définissant de manière caricaturale. Je dirais, il y a quatre usages possibles.
À cause du fourre-tout dont on parlait Capucine.
Exactement, il y a quatre usages possibles du concept pour voir ce dont nous parlons dans les médias. Il y a le premier, c'est le terme des services, c'est-à-dire pour parler d'une mouvance qui serait violente et qu'on associe à tort ou à raison à l'extrême droite. Donc là, le terme venu des services de renseignement. Le deuxième, ce serait le terme qui serait peut-être le plus exact pour parler de ceux qu'on appelle les nationaux révolutionnaires. Donc les néo-fascistes, en quelque sorte, ils existent, mais ils ne sont pas très nombreux, soyons honnêtes. Mais cette mouvance existe, j'appelle ça des gens qui, normalement, ont la tête sans cheveux et ont les cheveux rasés sans avoir de chimiothérapie. Donc ça, c'est une catégorie très particulière. Ensuite, troisième catégorie, et là, c'est là que ça devient un peu fou. C'est toute la mouvance identitaire qui s'est constituée pour réagir, surtout dans la jeunesse, à l'immigration massive. Et là, cette mouvance, on l'assimile de manière un peu brutale à la fois aux fameux nationaux révolutionnaires que je viens d'évoquer, et aussi plus largement à de potentiels terroristes racistes. Ça, c'est la catégorie 1, donc la catégorie des services de renseignement. Et les identitaires sont, de ce point de vue, criminalisés et pénalisés idéologiquement. On dit, c'est une... D'ailleurs, je reprends la formule d'Olivier Véran, l'ultra-droite, c'est une idéologie illégale. Une idéologie illégale. J'ajoute que Sacha Houlier ajoute, l'ultra-droite, c'est la vitrine présentable de l'extrême droite, donc dans son esprit le RN. Donc est-ce qu'on doit dire que le RN a une idéologie illégale? Je serais curieux. Et la quatrième définition que je proposerais, c'est en ce moment le fantasme médiatique utilisé pour laisser croire que la France serait au seuil d'une révolution fasciste, pour ne pas nommer le fait qu'elle subit surtout l'attaque de l'islamisme et d'une délinquance conquérante. Et de ce point de vue, c'est un usage à portée médiatique pour être capable de ce véritable épouvantail médiatique.
Frédéric Darby, est-ce qu'on a étudié l'ultra-droite à l'IFOP?
Alors, oui, l'IFOP. Que fait l'IFOP? On écoute le discours des Français, on voit comment les Français s'approprient ou pas des termes, des concepts. Clairement, les termes d'ultra-droite, le vocable ultra-droite, d'ultra-gauche, sont des vocables qui ne sont jamais utilisés par les Français. Dans les enquêtes qualitatives où les Français s'expriment spontanément, on parle d'extrême droite, d'extrême gauche, pour délégitimer souvent l'adversaire. Marine Le Pen est d'extrême droite. LFI n'est plus un parti de gauche classique, mais un parti d'extrême gauche. Et pour les Français, c'est un OPNI, hein, si je puis dire. Un objet politique non identifié. J'entends bien cette notion de fourre-tout. J'entends parfaitement ce que dit Mathieu Boccoté. Quand je vous entends tous les deux, moi, je pense à un mouvement. Je pense à chaque 1er mai, non pas la manifestation jadis, hein, non pas la manifestation du Front National de Jean-Marie Le Pen, mais toujours en parallèle, du côté des Tuileries, je crois, il y avait une manifestation de droite extrême, moi j'appelle droite extrême, avec le fameux abbé Georges de Nantes, avec les royalistes, avec les identitaires. Voilà, je pense à ces mouvements-là. C'est très très peu de monde, même si le dernier avatar, c'est-à-dire les manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs endroits de France après la mort dramatique du jeune Thomas, ont été remarquées par les Français. Si je cite le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match qui a été diffusé il y a quelques jours, ça a été le cinquième sujet dont les Français ont le plus parlé. Donc les Français, je dirais, ne s'approprient pas le terme d'ultra-droite. Ils sont, si je puis dire, plutôt sur la logique classique d'extrême-gauche ou d'extrême-droite pour délégitimer l'adversaire. Mais c'est, je trouve ça assez cocasse, et ne le prenez pas mal, qu'on parle d'ultra-gauche et d'ultra-droite dans un moment extraordinaire de dépolitisation et d'affaiblissement du clivage gauche-droite. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas utile, mais il ne parle pas aux Français, je dirais, spontanément.
Alors, je dirais, si je peux me permettre, les Français en ont parlé d'autant plus que pendant quelques jours, même quelques semaines, deux semaines, on a eu véritablement un martèlement, un tir d'artillerie médiatique pour imposer partout le terme d'ultra-droite. Le terme est à peu près inexistant et au bout de quelques jours, on comprend que si je me fie à ce qu'on entendait sur certaines chaînes info, si je me fie au discours gouvernemental, si je me fie à ce qu'on dit à gauche, eh bien, l'ultra-droite était à la veille de prendre le pouvoir en France. On était à la veille de la marche Rome qui serait désormais la marche Romans-sur-Isère ou la marche sur Paris. Et là, on était, à mon avis, dans un pur fantasme. Pourquoi? Parce qu'autant que lorsqu'on est devant un phénomène de délinquance conquérante qui s'inscrit sous le signe d'un racisme anti-blanc revendiqué, hein, crépole, hein, on veut planter du blanc. Il faut quand même prendre au sérieux.
Sont les témoignages, on n'a pas encore la version du procureur de la République
Le procureur lui-même a reconnu 9 témoignages où on a entendu la volonté planter du blanc. Planter c'est pas un détail. Bon, planter du blanc, si je dis planter du noir ou planter de l'arabe, il n'y aura aucune ambiguïté. Planter du blanc, apparemment, il faut mettre des points d'interrogation. Donc là, il y a d'un côté, il y a une délinquance conquérante qui s'inscrit sous le signe du racisme anti-blanc. De l'autre côté, mais qu'on présente comme un strict fait divers n'ayant aucune portée sociologique ou politique. Et de l'autre côté, on a un attentat islamiste qu'on retraduit en faillite du système psychiatrique français. Autrement dit, on vient dissoudre deux menaces meurtrières bien réelles. Et au centre, ce fantasme, c'est-à-dire 80 loubards, 80 loustiques qui vont marcher, qui sont probablement pas les gens qu'on aura envie de fréquenter, hein, je le précise, mais qui vont marcher à Crépol. Et bien là, ça, pas à Crépol, à Romans-sur-Isère. Et là, ça devient la grande menace.
Donc c'est un contre-feu.
Je pense qu'on est devant un contre-feu. Certains diraient, s'ils étaient méfiants, une forme de manipulation médiatique. Moi, je dirais, parce que je ne suis pas méfiant, un véritable fantasme. Puisque nos sociétés s'est convaincu que l'extrême droite était le seul véritable danger, il n'y a pas de catastrophe plus grande qui peut arriver à la France que la catastrophe qui engendrerait la prise de pouvoir par la dite extrême droite. Eh bien, l'ultra-droite, là-dedans, c'est comme une extrême droite encore plus méchante.
Frédéric David.
C'est très intéressant ce que Mathieu Bock-Côté vient de dire. Et c'est un des intérêts majeurs que je trouve dans aux enquêtes d'opinion. Vous venez de dire, je le dis avec mes mots, il y a eu tout un martèlement médiatique qui a dit l'ultra-droite est là, la manifestation du Panthéon, j'étais à 10 000 km de Paris, j'en ai en fait entendu parler de là-bas, l'extrême-droite et l'ultra-droite est au bord du pouvoir, mais ça n'embraye pas chez les Français. Quand je vous dis que le terme d'ultra-droite me fait pas sens, c'est très rarement repris, l'intérêt de la question dont je parlais sur les conversations des Français, c'est voir le décalage souvent saisissant entre l'agenda médiatique, qu'est-ce que les médias mettent en haut de l'agenda, quel est le message qu'ils font passer, plus ou moins honnêtement, plus ou moins volontairement ou consciemment, qu'est-ce que les politiques de quoi les politiques vont se saisir, et on sait qu'après un fait divers, un fait de société, les politiques cherchent à l'exploiter. Moi j'ai travaillé sur l'affaire Patrick Henry, dans les années 76-77, c'est archétypal du ministre de la Justice qui appelle à la peine de mort pour en fait, l'assassin, la gauche qui est très très gênée par rapport à ce sujet, et par rapport à ça, de quoi se saisissent les Français? De quoi parlent les Français? Quand on les interroge dans une enquête IFOP JDD il y a encore quelques semaines sur le principal danger pour la France, ils citent la menace islamiste, 30 points devant la menace d'extrême gauche ou la menace d'extrême droite.
Mais vous savez, on a réfléchi à ce sujet avec les équipes d'Europe 1 Soir week-end. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu plusieurs personnes au téléphone et plusieurs contacts, et cette manifestation dont vous parlez au Panthéon, cette manifestation de la rue de Soufflot, il y a eu effectivement, le côté visible de l'ultra-droite avec des slogans, avec des gens qui ont peut-être... Et puis, il y a eu aussi toute une série de personnes qui sont venues à cette manifestation. Vous avez dit ça embraye ou ça embraye pas chez les Français, pour protester parce qu'ils en ont assez et qui arrivent dans un climat concomitant où le même institut IFOP a sorti pour le comité laïcité république ce sondage. 57% des jeunes musulmans estiment que la charia est plus importante que la république et 78% des musulmans estiment que la laïcité est discriminatoire.
Mais alors les deux viennent ensemble, si je peux me permettre, parce que d'un côté tout événement qui vient troubler le récit de la diversité heureuse doit être laissé de côté. Si c'est ce qu'on appelle un fait divers, on parle de fait divers, donc là ça ne compte pas, ça peut être terrible, on peut le mentionner mais il ne faut pas le mentionner. Ou alors il y a ce sondage que vous venez d'évoquer, qui est majeur, et là, le système ne sait pas comment le métaboliser médiatiquement, idéologiquement, parce que ça vient troubler tout le récit qu'on avait depuis longtemps, qu'il n'y a qu'une petite minorité chez les musulmans qui rejettent la République, et pour l'essentiel, ils ont parfaitement adhéré. À tout le moins, ce sondage laisse comprendre le contraire. Et de l'autre côté, quand je parle de... Parce que les deux viennent ensemble, la fameuse manifestation dont vous avez parlé à la Sorbonne, on nous dit, parce que je le voyais partout, trois slogans absolument racistes qui sont prononcés par les gens. Alors, je vous donne les trois slogans, vous me dites ce que vous... Enfin, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, ça m'intéresse. Le premier, « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi ». Une affirmation qui est plutôt banale. J'espère que les Français sont ici chez eux dans leur pays. Slogan 2.
C'est un nom français qu'il dit.
Alors, slogan 2, l'araca. Oui, en effet. Slogan. Polonais, réveille-toi, t'es chez toi. Et Québécois, bon, ensuite, ça peut aller loin. Deuxième slogan.
Merci.
Qui était important là-dessus, c'était la racaille en prison, clandestin en avion. Si je le prends au sens strict, la racaille sont des agresseurs. Ben, j'espère que les agresseurs vont en prison. Et pour ces clandestins en avion, c'est qu'un clandestin, c'est quelqu'un qui n'a pas vocation à être sur le territoire national. Dès lors, sa vocation est de repartir, à moins qu'on croie à la naturalisation obligatoire des clandestins. Ces trois slogans qui ont été répétés, on en pense qu'on veut, on peut être contre, mais ils ont été présentés comme des slogans racistes au seuil du nazisme. Et là, on voit entre donc une manifestation dont on pense ce qu'on veut et la surinterprétation médiatique pour dire faites attention. Ouais. En fait, ce sont les chemises brunes qui sont de retour. Et je mets au défi qui de m'expliquer en quoi ces trois slogans littéralement pris sont quand même racistes ou même crypto-nazis.
Moi, je vais vous dire, Frédéric Dabi, ce récit, au cœur de ce récit, il y a quoi ? Il y a le fait que jamais le Front National, le Rassemblement National et Marine Le Pen a été aussi proche du pouvoir. Personne, je ne dirais jamais qu'elle va gagner automatiquement en 2027. Loin de là, il y a encore beaucoup de faiblesses, mais il y a peut-être des courants qui, en assimilant le Rassemblement National à l'extrême droite, à l'ultra-droite, à dire que le fascisme est au bord de prendre le pouvoir, que la marche sur Rome ou tout ce que vous voulez va arriver dans le pays, c'est une manière de discréditer, de délégitimer, de prévenir le risque d'une victoire du Rassemblement National. Est-ce que le RN, c'est l'extrême droite ? Enquête IFOP fiduciale pour le JDD, notre fameuse radioscopie dont on avait parlé ensemble en juin dernier. On a quand même une majorité de Français qui ont déjà voté au moins une fois pour le RN, 55%, qui disent oui, le RN est un parti d'extrême droite. C'est dire comme le schéma a imprégné même les électeurs du RN. Maintenant, quand on regarde la structure électorale du RN, qui est maintenant un parti attrape-tout, qui n'a quasiment plus de faiblesse sociodémographique, excepté peut-être des cas de sup, des personnes âgées, et encore, c'est presque deux fois plus que leur score de 2017 et 2022, on ne peut pas les considérer comme d'ultra-droite, c'est-à-dire, comme vient de le rappeler Capucine Patouillet, des mouvements très marginaux et très limités. Deuxième élément, et j'en aurais fini, qui accrédite ce récit ? Il y a toute la voice, si je puis dire, de la France insoumise, qui dit l'extrême-droite est aux portes du pouvoir, la collusion entre le bloc Macron, le bloc central et l'extrême-droite, tout ça, je dirais, alimente le récit dont Mathieu Bock-Côté vient de parler.
Mathieu Bock-Côté.
Alors vous savez, j'en ai parlé avec vous ici, tout le mal que je pense du concept d'extrême droite, qui à mon avis réfère à une réalité inexistante. Mais ce que je note, ça le dit, c'est que la lutte contre l'extrême droite, entre guillemets, c'est pensée dans la matrice de l'antifascisme, qui nous vient des années 30, et qui était une technique de manipulation de l'opinion, faut jamais oublier. Et qu'est-ce qu'était l'antifascisme à l'époque? L'antifascisme, ça ne consistait pas à s'opposer au fascisme, ça consistait à assimiler au fascisme toute forme d'opposition au communisme et au socialisme. Mais de la même manière, aujourd'hui, sur la même matrice, mais vraiment la même matrice, toute forme d'opposition à l'idéologie diversitaire dominante est présentée comme étant d'extrême droite. Or, l'extrême droite, étant ce sont les héritiers des vaincus de 45, eh bien, c'est ainsi qu'on joue la carte de la menace fasciste. Et de ce point de vue, le décalage entre le récit médiatique, qui est par ailleurs qui fonctionne, quoi qu'on en dise, les Français ne se représentent peut-être pas dans les termes du récit médiatique, mais sa capacité d'intimidation est réelle, surtout dans la chattering class, comme on dit, dans le commentariat, chez les élites, le récit médiatique a une puissance d'intimidation très réelle, mais ce récit a pour fonction de rendre infréquentable, d'infréquentabiliser ceux qui remettent en question véritablement en profondeur le récit diversitaire, l'idéologie diversitaire. Et pour moi, l'enjeu est véritablement là, et on a toujours besoin, je le disais d'ailleurs dans mon ouvrage, vous me permettez de le mentionner, l'antifascisme aujourd'hui a un problème, il n'y a plus de fascistes à chasser. Donc là, quand on réussit à en trouver un, par exemple les fameuses mouvances, la mouvance nationale révolutionnaire qu'on nomme ultra-droite de manière un peu sérieuse, mais on est tellement heureux dans le système médiatique quand on les trouve, et là on les met de l'avant, on dit regardez, ils sont là, on les a trouvés, nos vrais fascistes existent, le système se réjouit, il a enfin trouvé le monstre qu'il cherchait depuis 50 ans. Oui. Plus comme non, je pense que c'est un fantasme. Et c'est soit un fantasme, soit l'objet de manipulation. Mais comme vous savez, puisque je ne suis pas conspirationniste du tout, je pense que c'est un fantasme.
Mais alors attendez, parce que on a dit tout à l'heure que, encore une fois, cette ultra-droite, c'était un fourre-tout et qu'il y avait notamment le mouvement Civitas, qu'il y avait des catholiques intégristes non violents, mais pour certains théocrates. Quand cette manifestation de la rue Soufflot a rassemblé beaucoup de gens et notamment des gens qui étaient un peu paumés, qui ne savaient pas quoi faire, mais qui avaient juste envie de dire il y en a assez. Et quand vous avez Michel Auboin, par exemple, le préfet Michel Auboin, qui a publié un livre qui s'appelle Le défi d'être français, et qui vous dit que lui fait partie, lui, il est né dans la Beauce, et que ça fait six générations, six siècles que dans sa famille, on se marie dans la Beauce, entre les gens du coin, etc. Et que cette majorité, qui est une majorité finalement silencieuse de la France, qui représente 45 millions de Français, 75% des Français, et on sait que dans cette manifestation de la rue Soufflot, il y a eu ces gens-là. Il y a eu des gens qui sont... Voilà, et ils ne trouvent aucune porte d'entrée électorale sous un label ou sous un autre, qu'on appelle ça le RN, les LR ou même Renaissance aujourd'hui, mais ils viennent participer à cette, à cette manifestation de la rue Soufflot pour dire il y en a assez, en fait.
Attendez, au cœur de ce que vous dites, même s'il n'y a pas eu, d'après ce que j'ai vu, beaucoup de monde rue Soufflot, il y a l'onde de choc, l'émotion. Il y a eu deux émotions très fortes liées à des faits divers, je n'aime pas ce terme parce qu'il est aussi fourre-tout. Il y a eu l'affaire de la petite Lola en novembre 2022. Dans nos enquêtes qualitatives, Pierre, on nous en parle encore. C'est quelque chose, c'est une sorte de rupture anthropologique. Et puis, la mort du jeune Thomas. Tout ça crée une émotion dans le pays. Cette majorité silencieuse, d'ailleurs, on a publié une enquête quelques jours après sur les principales préoccupations des Français. L'insécurité a pris 5 points. La menace terroriste, après l'affaire Dominique Bernard et du pont de Bir Hakeim, également. Est-ce que c'est une majorité silencieuse ou est-ce que c'est une partie importante des Français qui, je dirais, sont choqués par ce qui vient de se passer, qui, eux, manifestent avec leurs pieds avec ce fait divers.
Mathieu Bocoté.
Alors, en dernier essence, il faut simplement voir que pour une partie de l'idéologie dominante, des porteurs de l'idéologie dominante, le véritable problème, ça ne peut pas être l'échec de l'intégration, ça ne peut pas être l'échec de l'immigration, ça ne peut pas être le choc entre l'islam et la France, ça ne peut pas être le fait qu'une certaine immigration est inintégrable parce que la distance culturelle est trop grande et la masse démographique est trop grande. Le problème, c'est toujours le racisme présumé des Français. Le problème, c'est toujours, si vous ne consentez pas à l'époque qui vient, vous êtes raciste, xénophobe, donc extrême droite, et ainsi de suite. On a une grille de lecture fondamentalement faussée qui traite ceux que vous parlez, des gens qui se sont joints à cette manifestation.
Mais c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver le commencement du problème.
Non, mais je pense que derrière cela, il y a cette idée que toute forme, tous ceux qui refusent le grand basculement diversitaire qui est le nôtre aujourd'hui, sont fondamentalement présentés comme le bois mort de l'humanité, comme des formes de rebut des temps anciens qui n'acceptent pas leur vocation à être recyclés dans la période nouvelle où le peuple historique français ne serait qu'une communauté parmi d'autres en son propre pays. Et ça, à partir du moment où vous refusez ce destin pour de dissolution identitaire et démographique pour le peuple français, vous serez extrême-droitisé, puis ultra-droitisé, et puis tôt ou tard, on dira, vous n'avez pas le droit d'organiser tel colloque, telle manifestation, tel événement. J'en ai parlé avec vous la dernière fois qu'on s'est vu, des colloques interdits parce que pourraient s'y tenir des propos contraires à la loi. On est rendu dans un moment de répression, on n'est plus dans le politiquement correct seulement. On est dans la pénalisation du désaccord idéologique, et de ce point de vue, en tant que libéral, et je le redis, ça m'inquiète terriblement.
Merci Mathieu Bocoté. On vous laisse partir parce que vous allez aller à l'étage du dessus. là-dessus chez CNews pour recevoir François-Olivier Gisbert.
Merci.
Dans la prochaine heure, Frédéric Dabi, pour continuer le débat avec vous, là on est quand même à un mouvement, et je reprends les propos de Mathieu Bock-Côté. L'autre jour, je constatais effectivement avec Antoine Léaumont qui était assis à votre place de LFI, et qui disait, mais comment est-ce que vous voulez-vous, il y a cette population d'immigrés qui est toujours là, qui est stigmatisée, qu'on dit que c'est toujours par eux qu'arrivent les attentats, et en même temps c'est eux qu'on a insultés quand ils étaient tout petits à l'école. Ça commence par là en fait, le racisme et le découlement de tout ça. Comment est-ce qu'on peut analyser
c'est
ça?
C'est une drôle de vision celle d'Antoine Léaumont, on le connaît, il se réfère beaucoup à des mythes historiques, à des mythes politiques. La constitution de 1793, je lui rappelle qu'elle n'a jamais été appliquée. À Robespierre, bien sûr, son idole historique, et c'est tout à fait respectable, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Non, je pense que quand on interroge les Français, il y a un regard pragmatique. Il y a l'idée que l'intégration ne marche plus. Quand on interroge, c'était une enquête IFOP JDD d'il y a quelques années, quand on leur demande de parler d'immigration, les Français parle d'intégration ratée et parle d'immigration clandestine. On voit depuis quelques mois un durcissement très fort de l'opinion publique. J'ai dit tout à l'heure que j'étais surpris qu'on parlait d'ultra-gauche, d'ultra-droite, parce que le clivage de droite s'est beaucoup affadi. Pierre, sur la question migratoire, il y a beaucoup de points de convergence entre la gauche et la droite. Il y a un durcissement, il y a l'idée que les délinquants étrangers, après avoir fait leur peine, devraient quitter le pays. Mais il y a aussi toujours une petite majorité de Français qui considèrent que c'est le devoir de la France d'accueillir les personnes fuyant la guerre ou la misère. On a une opinion qui n'est pas d'un seul bois, même si quand même, le mouvement, c'est un durcissement, et la grille d'entrée sur l'immigration, c'est devenu l'idée que le pays est en perte de contrôle. Le territoire, l'État, n'arrive plus à contrôler son immigration.
C'est les fameux territoires perdus de la République dont parlait Georges Bensoussan.
Exactement.
Et je pourrais citer aussi Jean-Pierre Robin qui lui-même avait fait ce genre de constat.
Très, très récemment, il y a eu l'affaire de l'Aquarius. On trouvait presque un Français sur deux favorable à l'accueil de ce bateau à Marseille, je crois. Mais les Français ont été très surpris de voir 200 personnes s'évaporer du jour au lendemain. La perte de contrôle, c'est ça.
Mais quand vous, le sondeur Frédéric Dabi, directeur de l'opinion à l'IFOP, quand vous voyez le résultat de ce sondage que vous avez fait très très récemment pour le CLR, le Comité de laïcité et République, quand vous voyez que 57% des jeunes musulmans vous répondent, puisque j'imagine qu'on les appelle au téléphone, ils vous disent la charia est plus importante. La charia est plus importante de la République, vous tombez de votre chaise.
Non. Parce qu'il y a une orthopraxie, c'est-à-dire une pratique religieuse de plus en plus forte du côté des Français de confession musulmane jeune par rapport aux plus anciens. Et puis oui, on voit ce souci d'intégration et d'accès. Et peut-être là, l'école qui n'a pas assez joué son rôle. Et surtout, au-delà de ça, vous en parliez, c'est cette question de la laïcité qui n'est plus vue de la même manière auprès de l'ensemble des Français de plus de 30 ou 40 ans. Auprès des plus jeunes également, avec une intensité particulière chez les Français de confession musulmane, qui la voient, qui la perçoivent comme discriminatoire, comme peut-être au début du siècle, beaucoup de catholiques, mais il n'y avait pas d'IFOP dans les années 1900-1905, voyez la loi Briand comme, si je puis dire, une loi intentatoire au catholicisme.
Ouais, la laïcité, on en parle d'ailleurs depuis quelques jours, depuis ce que j'ai appelé tout à l'heure dans le journal le Hanouka Gate, jeudi soir, avec ce geste d'Emmanuel Macron qui a été interprété, surinterprété, on lui fait dire ce qu'il veut, ce geste.
Alors il s'est expliqué d'ailleurs sur votre... Vous avez...
Alors qu'en réalité, c'était une bougie en mémoire à la Shoah, donc ça n'a a priori rien à voir avec le début des fêtes de Hanouka, sauf que c'était le début ce jour-là. Est-ce que la laïcité, alors que nous sommes le 9 décembre aujourd'hui et que c'est l'anniversaire de la loi de la séparation entre l'Église et de l'État, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce que malheureusement, encore une fois, comme on le disait pour le débat sur les retraites, le rapport du corps, on lui fait dire ce qu'on veut, est-ce qu'aujourd'hui la laïcité, on lui fait dire ce qu'on veut?
Clairement oui. Comme je vous disais, il y a deux visions de la laïcité qui s'affrontent de plus en plus fortement en France. Celle de la jeunesse qui voit le principe laïque comme l'idée d'assurer l'égalité entre les religions et la liberté de conscience, ce qui explique que les jeunes soient plus que la moyenne favorables à ce que les signes religieux soient portés, par exemple, à l'école, alors que c'est interdit. Et l'ensemble des Français un peu plus âgés qui voient le principe laïque, la laïcité, comme la séparation entre le politique et le religieux et la neutralité de l'État. C'est ces deux visions qui s'entrechoquent, avec une vision encore plus dure du côté des Français de confession musulmane qui voient la laïcité comme une sorte de danger pour leur foi. Ouais, et là, il y a beaucoup de travail à faire.
Et c'est peut-être pas étonnant que certains jeunes qui sont des fervents catholiques se tournent vers des mouvements comme on a vu de l'ultra-droite sans pour autant...
Ce mouvement d'autopraxie de la jeunesse touche toutes les religions.
Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur de l'opinion à l'IFOP d'avoir été avec nous.